Il est donc l'heure de retrouver Écriture dessinée en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors régulièrement, j'évoque l'importance narrative du lettrage. Souvent tracé avec le même trait que le dessin, il permet aux lecteurs et aux lectrices d'investir pleinement le récit. Le numérique a bouleversé la réalisation du lettrage des différents textes d'une bande dessinée. Jean-François Rey est un typographe qui, depuis une vingtaine d'années, investit et développe les outils numériques en lien avec les spécificités graphiques du lettrage de chaque auteur, dessinateur, autrice, dessinatrice. Pour nous éclairer sur ce pan essentiel des écritures dessinées, nous serons avec Jean-François Rey à partir de 14h15. À tout de suite!
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Une brève pour commencer, puisque on va parler beaucoup de typo, de graphisme. Et donc, il y a ce week-end, si vous êtes à côté de Bordeaux, eh bien, ne manquez pas Aperçu, la Biennale du design graphique. Elle va démarrer aujourd'hui jusqu'à dimanche 26 mai. Exposition, conférences, ateliers, concerts. Près de 40 artistes seront présents. Ils sont tous de renom. Le festival est entièrement gratuit et certaines rencontres et ateliers sont sur inscription. Vous tapez sur votre moteur de recherche Aperçu Biennale du design graphique de Bordeaux et vous tomberez immanquablement dessus. Sur le site de la Biennale, nous pouvons lire également cet engagement. Aucun propos ni comportement à caractère sexiste, misogyne, raciste, validiste, classiste, grossophobe, LGBTQ+A+phobe ne sera admis et entraînera automatiquement une exclusion. Cela bouge en profondeur. Saluons cet engagement. En tout cas, pour cette édition, je ne pouvais pas y être, mais dans 2 ans, je serai au rendez-vous. Les Shadocks. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est Fabien qui est en régie. Les 3 musiques qui ont été choisies par Jean-François Rey au programme de cette émission, eh bien c'est Angus et Julia Stone avec Paper Aeroplane. Il y a Trifen et son morceau Pas comme les autres. Et puis Otesh pour le morceau Sipater. Ça sera tout à fait réjouissant. Je poursuis avec 2 livres pour évoquer ce rapport essentiel de l'écriture dessinée et de la bande dessinée, de ce lettrage et de l'image. Commençons par une série qui est plutôt une série, on va dire, classique dans sa présentation. C'est un album de 56 pages. Il y a donc une part importante qui est faite au dessin. C'est un récit de genre. Là, nous sommes dans une sorte de récit qui se déroule au deuxième siècle de notre ère. Et Calédonia, donc, est un récit écrit par Corbéran et par Despujol. L'Ottomain, c'est la 9e légion et c'est l'hôte 1 d'un triptyque. Donc, lorsque on découvre ce livre, il y a au niveau du scénario un parti pris tout à fait intéressant. Le récit est celui d'une colonisation romaine, et là nous sommes sur les territoires des tribus scottes. Et il y est immédiatement question, et c'est des qualités d'écriture de Corbeyran, c'est d'avoir montré comment déjà cette colonisation romaine, eh bien, est une forme de colonisation qui fait écho à celles qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et donc les droits bafoués des tribus autochtones, eh bien, sont aussi présents avec comment les Romains et cette illusoire civilisation qui va permettre de coloniser positivement un territoire, s'affrontent avec ce qui est la culture, l'art, la politique, la vie sociale des tribus qui occupent ces territoires depuis très longtemps. Mais ce qui est important dans Calédonia, outre cette façon de pouvoir évoquer ces enjeux politiques à travers le scénario, c'est la façon dont le lettrage est utilisé pour évoquer certaines subtilités au niveau du texte, notamment avec les différentes langues qui vont être utilisées. Il y a notamment la tribu autochtone qui a une langue étrangère qu'on va voir apparaître dès la première page, qui aura sa calligraphie spécifique. Il y a les échanges qui sont faits entre les Romains et les membres de cette tribu Scott, et donc là on a un lettrage classique, précis, mais qui est vraiment un lettrage manuscrit qui a encore un côté un peu mécanique, mais qui en tout cas passe beaucoup mieux que la plupart des polices qui sont utilisées de façon numérique pour d'autres choses que la bande dessinée. Et il y a également la langue utilisée par l'État, qui est membre de cette tribu Scott, pour conduire, guider des monstres qui ont été convoqués pour s'opposer aux Romains et avec qui elle dialogue dans une langue nouvelle, inconnue, qui a des accointances avec notre alphabet, mais qui en tout cas, sur le plan graphique, se distingue et montre ainsi la possibilité que le dessin de la lettre offre pour créer de nouvelles langues et les représenter. C'est un livre qui est efficace et qui permet, par le lettrage, de prolonger cette dimension sacrée et mythologique qu'il y a dans le récit, puisque les Scots vont s'allier avec les Fomorés, qui seront des rescapés d'un ancien vaisseau et qui, manifestement, sont très grands. Donc ça, c'est le tome 1 de Calédonia, la 9e Légion de Corbeyran et d'Emmanuel Despujol. C'est publié par les éditions Soleil et les 56 pages de ce récit sont au prix de 16 € et le livre a été imprimé en Belgique. Les moustiques. Deuxième livre avec celui de Dave McKean, Prompt, qui est une conversation avec une intelligence artificielle, et Prompt, c'est l'ordre qu'on donne à l'intelligence artificielle comme Midjourney pour créer une image. Donc Dave McKean est un auteur important, célèbre, et il y a une présentation sur la 112e et dernière page de ce livre où je cite: Dave McKean est illustrateur, designer, photographe, réalisateur, auteur et musicien. Et il fait tout ça très bien, et en complément, son travail a été maintes fois récompensé. Le livre vient de l'interrogation de Dave McKean devant les possibilités de l'intelligence artificielle et il a interrogé la créativité d'une IA parce que pour lui, c'était non seulement une menace, mais un moment de stupeur parce que les créateurs pouvaient très bien se retrouver sans travail parce qu'ils pouvaient être remplacés par l'intelligence artificielle. Ce qui est très important, c'est que Dave McKean, pour réaliser Prompt, a utilisé cette intelligence artificielle. Et en page 112, il mentionne un peu le processus. Et il écrit « Ceci est un livre, une offensive du monde tactile et physique. J'ai décidé de l'écrire le 20 juin 2022. » J'ai commencé à produire des images le 21. Je l'ai terminé le 2 juillet de la même année et il est parti en impression le 4. Toutes les images ont été créées à partir de Midjourney pour la troisième partie. Les photographies et images de l'IA ont également été retravaillées dans Night Café. Le résultat est tout à fait étonnant. Il y a trois parties principales qui évoquent cette relation et cette conversation avec l'intelligence artificielle et qui se basent sur ce que Dave McKean a pu créer avec cet outil. Et vous avez entendu, il lui a pas fallu beaucoup de temps. Il y a d'abord l'épopée de Gilgamesh avec Tablette 5 et qui reprend le récit de Gilgamesh, mais qui va utiliser quelques bas-reliefs de l'Égypte antique et qui, à partir des matières, de la forme de ces bas-reliefs, Dave McKean va composer un ensemble pour représenter l'épopée de Gilgamesh. Le résultat est tout à fait surprenant puisque on a cette matière de la pierre, ces bas-reliefs qui semblent créés au moment de l'Égypte ancienne. Et puis, il y a une deuxième histoire qui s'intitule « Le mine-monde tel qu'il est journée » et qui est un récit où Dave McKean va utiliser un texte pour accompagner ces images qui semblent créées en lien avec l'actualité. Chaque image est associée à une date et à un récitatif qui est en dehors de l'image. Et toutes ces images reprennent un peu ce principe de Dave McKean qui est de composer avec les différents techniques, matériaux qui sont à sa disposition, des images qui ne ressemblent en rien à ce que peut être perçu de notre réalité. Le lien avec l'actualité va être d'autant plus troublant que Dave McKean va jouer, et ça peut être posé dans les prompts envoyés à Midjourney, va poser des déformations. Il y a des visages qui vont se transformer, qui vont être marqués, un peu comme le peintre Francis Bacon le faisait dans ses tableaux où la représentation n'avait plus rien de vraisemblable. Là, on a donc un texte qui est très descriptif d'une actualité et une image fabriquée par Midjourney avec une sorte de présence vénéneuse, de déformation qui altère toutes ces images et qui leur donne des ambiances délétères. La troisième partie, c'est une autre approche encore, c'est une promenade en mer cérébro-spinale avec cette fois des séquences qui sont beaucoup plus narratives. Il y a une utilisation du texte à travers des récitatifs qui peuvent être distingués de l'image par un fond ou alors directement intégrés à l'image dans un espace qui est plutôt pensé pour cela avec l'utilisation soit d'une forme romaine, c'est-à-dire classique, soit d'une forme avec bold, c'est-à-dire avec une graisse plus épaisse. C'est le gras que l'on trouve sur nos polices d'ordinateur. Il y a là un récit qui est beaucoup plus narratif, où Dave McKean va donner des réflexions, va mettre en perspective les images, va réagir avec cette fois des images qui sont aussi surprenantes par bien des endroits, avec aussi ces déformations, mais un travail beaucoup plus sur les fonds, sur les matières, sur des représentations d'animaux assez surprenantes. Et donc il y a là aussi une piste assez fantastique, et le rapport entre cette police alors qui est une police à bâton, c'est-à-dire avec des caractères droits, et ces images très puissantes avec une forme graphique intense, eh bien surprennent, et on a vraiment l'impression que là le texte altère assez définitivement la forme de l'image. Il y a dans cette représentation et cette conversation une angoisse que l'on sent toujours présente, et cette dernière histoire est vraiment une façon d'interroger l'IA. Dave McKean arrive à dégager ce qui fait l'essentiel de sa création et que Midjourney n'arrive pas à reproduire, mais il y a toujours ce qui va être fait par le développement technologique, ce qui sera rendu possible et qui fait que l'interrogation peut rester et persister. Il y a dans le texte final de cette 112e page, où il y a cette présentation de Dave McKean, où on parle de ses différents travaux, de ses différentes bandes dessinées, et on peut lire à la fin, mais tout ceci date d'avant l'IA. La dernière fois qu'il a été aperçu, donc Dave McKean, il marchait en rond et parlait tout seul sur une île de plus en plus petite, vraisemblablement troublée par l'idée d'un futur dans lequel la créativité aura été démocratisée au point que les derniers mises à jour ne s'adressent plus aux anciens systèmes d'exploitation. Il vit quelque part et se forme actuellement à l'apiculture. Il y a donc une angoisse profonde qui reste, même si dans ce livre, il y a quelques pistes optimistes. Prompt, conversation avec une intelligence artificielle de Dave McKean est publié par les éditions Barbier. Les 112 pages de ce récit sont au prix de 35 €. Le livre a été imprimé en France. Il est limité à un tirage de 500 exemplaires et signé par l'auteur. Eh bien, on va écouter notre premier morceau de musique avant de retrouver notre invité.
Spilled the ink across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you, 'cause it didn't leave my room. But it awaits the hands of someone else. Garbage man, gotta say gotta say I So he opens it up and reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart will bright and a heart will mend. He walks on home, tired from work. The letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky. It's gone with the wind. Gossip.
Vous souvenez-vous de ces traductions d'Astérix où le lettrage du Derzo était remplacé par une police ou fonte d'imprimerie, aujourd'hui numérisée? Nous restions étrangement distants de cette série qui nous a pourtant tant enthousiasmés. La traduction a suscité la première nécessité d'une possibilité d'une police identique pour rester dans la force de l'image et due aussi à cette police calligraphiée. Le livre primé, Moi ce que j'aime c'est les monstres, d'Émile Ferris, contient cette mention, lettré à la main par Amandine Boucher, pour que les mots soient chargés d'émotion. Jacques Tardy a rapidement confié le lettrage de ses livres à Anne Delobel. L'écriture créée colle intimement au dessin de Tardy. Elle est faite du même trait, des mêmes rondeurs. Plusieurs auteurs ont confié à un lettreur graphique la tâche d'écrire les textes des bulles de leur bande dessinée. Philippe Glogowski a ainsi lettré un grand nombre de livres issus du journal Spirou. Le texte d'une BD, d'une bande dessinée, ne se limite pas à celui des phylactères. L'univers textuel est plus complet. Le typographe Jean-François Rey crée des lettrages numériques pour la bande dessinée, incluant les titres, les onomatopées, les textes dans l'image. Il illumine l'aspect mécanique de la numérisation d'une écriture où toutes les lettres sont identiques. Il a ainsi créé un outil numérique qui permet à l'auteur de choisir entre plusieurs versions d'une lettre au moment de la saisie du texte. Jean-François Rey a créé une police numérisée pour les traductions de Crumb, faites par les éditions Cornelius. Il lettre les livres de Charles Burns. Cette numérisation se fait au plus près du lettrage de l'auteur à partir des alphabets qu'il a dessinés. Pour Marion Montaigne, le lettrage numérique créé permet à l'autrice de faire varier la taille du texte et ainsi de pouvoir rajouter des mots, en supprimer, de contrôler la taille des blancs tournants dans les bulles. Une exigence qui permet à l'auteur ou à l'autrice de maîtriser l'écriture des textes, d'en libérer la création. Un apport essentiel à la bande dessinée contemporaine. Nous sommes avec Jean-François Rey pour qu'il nous détaille les coulisses de ses créations. Bonjour Jean-François Rey.
Bonjour Bruno.
Alors, pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance, comment vous est venu ce goût pour la typographie avant que ça soit celle pour la bande dessinée?
Oui, je me rappelle plus trop. Tout est lié à la musique, en fait, dans la fin des années 90, dans mon souvenir, où c'était lié à la musique électronique, où on devait développer des univers vraiment particuliers pour de la musique particulière, et que je commençais à développer des alphabets, ou à lettrer à la main à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert les logiciels avec les ordinateurs, où on pouvait faire des outils réutilisables par d'autres et tout ça. Donc voilà, et je faisais beaucoup de choses expérimentales où je travaillais sur la lisibilité, la visibilité surtout, pour créer des codes ou des choses comme ça, voilà.
Et pour la bande dessinée, Jean-François Rey, comment s'est passé Le travail sur vos premiers alphabets numérisés.
C'est à l'école, comme je faisais beaucoup n'importe quoi avec les lettres et tout ça. Il y a eu Jean-Noël Lafargue qui commençait à enseigner à l'école d'art d'Amiens vers 97, 98, je ne sais plus, et qui m'a fait rencontrer l'éditeur des éditions Cornelis à l'époque, qui cherchait justement à industrialiser un peu le processus de lettrage pour Robert Crumb, parce qu'il y avait énormément de textes et beaucoup de styles différents dans son dessin de lettres original. Et bon, c'était comme ça m'a intéressé en fait, parce que c'était pas de la typographie normale en fait, donc c'est ce qui m'a intéressé. Puis de trouver une solution justement pour aider à lettrer les graphistes qui. Enfin voilà, c'était un petit défi. Et je suis rentré comme ça, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, sur comment ne pas répéter les mêmes symboles, les mêmes glyphes, comment trouver des solutions, enfin voilà. Et ça évolue depuis, avec la technologie.
Alors, Jean-François Rey, comment se passe la relation avec un auteur ou un éditeur qui vous sollicite pour numériser un alphabet ? Qu'est-ce que vous lui demandez ?
Déjà que je ne numériserai pas son alphabet tel quel, c'est peut-être la différence aux autres. En fait, je redessine beaucoup, je demande beaucoup au début aussi, je demande le plus de matériel possible pour voir en fait arriver à trouver le juste milieu dans tout, enfin créer une harmonie dans toutes les lettres et tout ça, même si elles sont très différentes. Et ça dépend vraiment des projets en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chaque projet, je me rends compte que même si la demande est la même à la base, au final, on ne travaille jamais de la même façon. Par exemple, si c'est pour adapter vraiment un livre précis en fait d'un auteur étranger ou d'une autrice, moi je préfère repartir des planches vraiment originales de la façon dont la personne a dessiné ses lettres, enfin, a lettré elle-même avec son dessin, toutes les imperfections et tout ça, plutôt qu'elle fasse une planche avec toutes les lettres les unes à côté des autres et que après moi je retravaille ça. Enfin, ce qui peut arriver pour des auteurs souvent maintenant à la tablette, ils préfèrent refaire les alphabets à la tablette directement. Enfin, il n'y a vraiment aucune solution. Je fais vraiment du sur-mesure à chaque fois. Enfin, j'essaie de trouver une solution à un problème qu'on me donne. Je sais que c'est pas très précis comme réponse.
Mais... Si. On va arriver, on va préciser. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a eu une vidéo où on a plusieurs auteurs qui témoignent du travail qui a été fait, de la collaboration qui a été entrepris avec vous, et notamment, par exemple, Marion Montaigne, où elle a un lettrage qui est particulier, et donc alors vous lui demandez de faire plusieurs alphabets avec différentes versions de lettres. Comment ça se passe?
Alors, pour le cas de Marion, voilà, comme ça on parle d'elle. Et elle, pour le coup, elle m'a fait des alphabets. J'ai demandé, parce qu'en plus elle fait partie des premières où c'était vraiment faire un alphabet avec beaucoup de langues et tout ça, enfin, que ça serve justement à plein de cas possibles. Et donc elle m'a fait des planches d'alphabet. Mais en vrai, en fait, comme j'ai demandé, parce que moi ce que je demande à la base, c'est vraiment d'écrire, de même pas me faire des planches d'alphabet, mais de me faire des paragraphes, enfin, ou même des pangrammes, pour dire le bon mot, où il y a toutes les lettres et tout ça dans les différentes langues, et de me le répéter plusieurs fois, et que en fait, comme ça, je me fais une librairie de plein de glyphes pour avoir plein de variations différentes et surtout voir comment elle écrit, en fait. C'est surtout ça le principal, c'est de voir ses petites imperfections, enfin de comment elle agence elle-même ses lettres. Et après, à moi, arriver à trouver que quand elle tape le texte à l'ordinateur, que ça retrouve cette petite incohérence manuelle, enfin, je ne sais pas comment on peut dire.
Par contre,
ce qui est intéressant avec elle, excusez-moi, pardon.
Oui, bien sûr.
C'est que justement, elle fait partie des premières où j'ai demandé des planches d'alphabet et tout ça, sans demander des dessins, comment dire, des planches où elle délettrait déjà. Et justement, il n'y a pas longtemps, enfin il y a un an, en fait, on a retravaillé la fonte. On a fait une version 2 en fait de son écriture, parce que moi, en fait, j'ai trouvé trop statique. Enfin, voyant comment elle l'utilisait au fur et à mesure des années, je voyais que ça correspondait. Enfin, moi ça me semblait trop statique, même si. Et donc on a refait une version nouvelle où ça bouge encore plus, elle m'a refait des lettres, enfin, on a retravaillé, puisque je travaille actuellement en demandant vraiment de, que la personne ne se force pas à écrire et qu'elle me fasse des textes pour que moi je m'en serve comme base et pas juste vectoriser et récupérer les lettres et les mettre dans un logiciel en fait, parce que c'est malheureusement pas ce que je fais, parce que si je faisais ça, ça me ferait gagner beaucoup de temps.
Donc, et il y a une application du code typographique, du fonctionnement d'une typo, d'une fonte, d'une police,
oui.
Plus tous les mots conviennent, oui. C'est-à-dire l'espace entre les lettres, les consonnes doubles, la chasse entre les lettres, c'est cet espace entre les lettres, les capitales, le bas de casse. Ça vous amène à travailler précisément chaque lettre pour créer une harmonie d'ensemble.
Mais c'est même pas que c'est chaque lettre, c'est qu'en fait chaque, moi je fais des variations de chaque lettre. Ça dépend de l'écriture des personnes, mais ça peut être en moyenne 3-4 variations, ça peut suffire. Mais là, j'en suis à des fois, je fais 5 ou 6 variations. En fait, de lettres qui sont dessinées très très proches, mais qui est quand même un petit truc qui change. Mais quand les lettres sont très différentes les unes des autres, ça, c'est pas la peine d'avoir beaucoup beaucoup de variations. Ah, j'ai oublié votre question.
Par exemple, si on prend l'onomatopée ts, où il y a un T et 5 S, l'auteur peut avoir, Jean-François Rey, que des S différents.
Oui, bah ça dépend aussi bêtement aussi du budget hein, qu'on a à la base, pour parce que ça fait beaucoup de travail de faire beaucoup de variations. Mais oui, le principe, c'est qu'en fait, c'est là où je fais du sur-mesure. En fait, la façon dont les personnes travaillent et écrivent, s'il y a besoin de beaucoup de variations, ça se voit tout de suite dans ses textes. Donc, et moi, mon travail, c'est que si ça soit tapé sur l'ordinateur sans qu'il y ait le moins d'intervention possible, c'est-à-dire rajouter du travail quand on tape ton texte, et que ça le fasse le mieux possible, le plus naturellement possible, sans qu'on fasse rien. C'est là où c'est compliqué, en fait. C'est que il faut que je me mette dans la situation où l'auteur, il sait pas utiliser les logiciels ou des choses comme ça, quand ça arrive, et qu'il faut sans rien faire que ça soit le mieux possible. Et moi, comme je l'être aussi des bandes dessinées que j'en adapte, comme j'utilise les typographies que je fais ou même d'autres, je vois en fait les problèmes qu'on a quand on l'utilise, et puis souvent quand il faut changer à la main et des choses comme ça. Donc ça aide vachement, pardon, beaucoup à faire des choses qui s'automatisent sans qu'on s'en rende même compte en fait. Par exemple les approches après les approches avant les ponctuations en français, il y a une espacine normalement, enfin un quadratin qu'il faut respecter, parce que voilà, alors qu'en anglais les lettres sont collées aux mots. Enfin, les exclamations, les points d'interrogation, les points virgules et tout ça. Donc moi, c'est des petites choses comme ça où je le fais automatiquement sans que l'auteur, quand il le tape, il s'en rende compte. Mais ça respecte les petites règles typographiques suivant les langues. Comme ça, ils n'ont pas à s'en occuper. Puis même le graphiste chez l'éditeur qui récupère ça, ils n'ont pas à faire des corrections orthotypo. Enfin, ça, sans leur dire, en fait. Donc, je ne sais même pas s'il y en a qui le voient. Mais voilà.
Jean-François Rey, je vous propose votre deuxième choix musical et on se retrouve donc dans quelques minutes pour poursuivre cette conversation. À tout de suite.
D'accord.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Escapade, nous sommes en direct dans Écriture dessinée avec le typographe Jean-François Rey pour tout le travail qu'il réalise sur la numérisation des écritures des différents auteurs dans leur bande dessinée. Jean-François Rey, il y a, bien sûr, on a parlé du texte, vous avez évoqué qu'il y a d'autres points de texte dans les bandes dessinées, notamment les titres, les titres de chapitres ou les onomatopées. Comment vous abordez cette partie-là ?
Alors ça, c'est un peu différent, parce que ça dépend vraiment si c'est moi qui dois adapter un livre. Ça, c'était un... Pour moi, ça ne fait pas partie du même travail, en fait. Parce que c'est vraiment... comment dire ? Là, j'ai pas, sauf si la typographie et aussi l'écriture de la personne, en général, tout ce qui est titre et livre, c'est fait manuellement, parce qu'il faut une espèce de singularité. Mais, et après, quand c'est utilisé par une typo, souvent, je sais pas, là, pardon, je sais pas quoi vous dire.
Parce que, bon, dans la vidéo qui est visible sur YouTube, où on a des auteurs qui témoignent de ce travail, il y avait notamment Dorothée de Montfred qui parle de son à la fois travail en bande dessinée, et elle montrait l'importance d'avoir cette... son écriture numérisée. Et puis il y a toute une partie sur le travail du titre pour qu'on ait quelque chose qui ne soit plus mécanique mais qui soit quand même en lien avec son univers graphique.
Tout à fait, en fait, parce que vous dites, c'est... pour Dorothée, on a fait une typo pour ces titres, c'est vrai. Et avec justement des petites... pour les titres, par rapport à Dorothée, c'est... Non, parce qu'au début, on avait fait une fonte où les lettres, il y avait beaucoup de petites pétouilles dedans et tout ça pour que ça fasse beaucoup plus naturel et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça se voyait comme les titres, c'est des mots assez simples. Hein. Il n'y a pas beaucoup de texte. On voyait souvent les répétitions des lettres dessinées de la fonte. Et en fait, donc, on a uniformisé le plus possible en ayant, hein, pour que ça se rapproche. Mais ça arrive souvent, en fait, on pense qu'il faut faire le plus différent possible toutes les lettres, alors que des fois c'est juste dans des petites subtilités, c'est un peu comme la musique que vous avez passée en interlude, là où en fait on a l'impression que c'est toujours la même trame, alors que c'est une harmonie avec plein de petites finesses dedans, enfin voilà, c'est toutes les petites choses qui gravitent, qui font la différence.
Jean-François Rey, quels sont vos projets actuels ? Sur ce plan-là,
il y en a pas mal. Là, le gros travail qui arrive là, c'est une adaptation en français pour l'association de livres Love Bad Bunch de Aline Kominsky-Crumb. C'est drôle parce que j'ai commencé avec Robert Crumb il y a très longtemps, enfin, en 2000, et que là on me propose d'adapter en français le livre de sa femme. De son anthologie, je ne sais pas comment on appelle ça, où il y a un recueil de plein de ses dessins. Et ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de styles différents. Et voilà. Et après, j'ai un autre livre, je ne sais plus ce que c'est. Sinon, j'ai en typographie, j'ai aussi pas mal de projets là. Mon ISO, qui est vraiment intéressant parce que c'est un auteur qui fait du dessin au trait très fin en routring. Et donc, malgré que le trait soit très fin, en fait, il y a plein de petites imperfections dedans. Voilà. J'ai Émilie Gleason qui m'a contacté, jeune autrice, qui fait des super dessins pour un livre qui va être édité chez Casterman bientôt.
Ouais, qui avait été primé pour son livre chez Ça et là.
Oui, ah bah oui. Ça et là, je ne me rappelle pas.
C'était le tout premier, un de ses premiers sur son frère autiste.
Ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Et ben chez Ça et là, justement, c'est drôle parce que ça s'est croisé, je les connais depuis longtemps, et là, je commence à travailler pour les éditions Ça et là, pour justement, comme ils adaptent beaucoup d'étrangers en français, de faire justement des versions numériques pour les auteurs qui écrivent vraiment manuellement des versions complexes. Donc j'ai ça aussi à faire. J'ai aussi une adaptation d'un gros comics américain en français pour Herman Bruxelles. Et là, c'est un travail qui est très différent, où je suis obligé de prendre une typo qui est très industrielle, puisque aux États-Unis, ils utilisent vraiment des typos, ils achètent les mêmes typos tous pour les comics sur le même site. Donc ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, je le fais quand même, mais je la bidouille un peu quand même à la main quand je laisse prêt pour les cases. Et j'ai sûrement encore plein d'autres choses.
En vous entendant, Jean-François Rey, mais comment vous... Vous réagissez quand vous ouvrez une bande dessinée? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez tout de suite les défauts, comment la police a été l'écriture a été malmenée?
Oui et non, ça dépend. Mais c'est comme en musique, hein, quand on sait comment c'est fait, après quand on écoute, c'est soit on se laisse bercer par la chose sans réfléchir et c'est que ça marche. Donc une BD, c'est pareil, en fait, c'est tant qu'on lit et qu'on ne s'arrête pas. Que ça fonctionne, que ça soit fait à la main, à l'ordinateur, que c'est même une typo très normale. Le principal, c'est que ça fonctionne, en fait. Mais moi, quand je travaille sur un projet, tout ça, souvent, je le laisse, enfin, je pense comme tout le monde, je le laisse de côté pour après revenir dessus avec un regard frais et puis y penser, comme si c'est pas moi qui l'avais fait, pour voir tout de suite qu'est-ce qui me gêne avec mon regard. Je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment, faut laisser... que ce soit le plus naturel possible, faut pas s'arrêter, en fait. C'est pour ça qu'en lettres, il faut aussi faire attention au rythme, faut pas copier-coller bêtement dans les blocs avec les logiciels, en fait, faut pas hésiter à c'est à nous à dire au logiciel ce qu'il faut faire, quoi. Donc faut mettre en forme, enfin faut composer, voilà. On revient toujours au même, hein. C'est la musique, le texte, faut composer et faire à sa façon.
Jean-François Rey, lorsqu'on regarde les mentions des créateurs de la bande dessinée, il est très rarement question du lettrage. Quelle reconnaissance votre travail a-t-il aujourd'hui? Le travail d'autres lettreurs ont eu actuellement?
En France, ça commence quand même, on m'appelle de plus en plus, puis on me crédite aussi, ça c'est bien, de plus en plus, on me demande, on fait attention, souvent. Et contrairement aux États-Unis, où c'est très industrialisé quand même, où là-bas, le lettreur, c'est vraiment partie intégrante du processus de la création d'une BD, mais eux, c'est autre chose. Nous, on est en Europe, on est quand même plus sur le côté auteur, où c'est le travail, enfin, une bande dessinée, c'est un auteur. Puis après, il y a les petites mains autour qui font l'œuvre, enfin... Alors qu'aux États-Unis, il y a chacun le scénariste, celui qui dessine en noir, l'encreur, celui qui fait les couleurs, et le lettreur qui dessine aussi les bulles et tout ça, enfin qui fait vraiment tout aux États-Unis. Et il y a aussi un prix, je pense, il y a un vrai prix. Alors qu'en France, il n'y a pas cette chose-là encore. Souvent, l'auteur le fait, ou alors c'est l'éditeur qui prend un graphiste pour le refaire en numérique parce que c'est plus pratique. Enfin, mais ça avance, ça commence à... Les gens commencent à y faire attention, donc ça, petit à petit, ça va être reconnu et voilà.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué pour son lettrage dans les différents registres de leur utilisation dans une bande dessinée?
À lettrer à la main ou...
À la main, oui, oui. Ou, voilà. Bah, à la main ou avec une police numérique.
Je sais pas, non, j'en ai tellement.
C'est pour ça que vous les faites vous-même.
Bah non, il y en a sûrement plein, mais en fait, je peux pas dire un. Comme je disais précédemment, je pense que... J'essaye d'oublier, en fait, je me force à oublier plein de choses, tout ce que j'ai lu, pour pas me laisser influencer et vouloir faire un truc comme un truc qui a déjà été fait. Même dans ce que moi je fais, hein, même quand je programme des alternances de lettres, hein, des rotations, des choses comme ça, c'est très bête, mais je redémarre à zéro à chaque fois, plutôt que de reprendre ce que j'ai fait qui marchait avant. Enfin, c'est pour vraiment l'adapter à chaque personnalité. Mais dans les projets récents, j'ai travaillé dessus, mais c'est aussi une Antico, l'autrice, je trouve qu'elle sa façon de lettrer manuellement est vraiment super bien, et son lettrage numérique qu'on a fait. Et en fait, elle a voulu quelque chose de très mécanique pour compenser la narration de sa dernière histoire, là, qui était le livre Madone et Putain. Et c'était assez drôle, parce qu'au début, j'avais déjà fait une typographie il y a très longtemps pour l'association. On avait fait quelque chose de très chaotique. Voilà. Et là, on a refait une nouvelle typo qui était à l'opposé, où c'était à peu près le même dessin de ses lettres, puisque c'est à l'écrit un peu près pareil. Mais là, on a tout mécanisé, en fait, pour que ça fasse vraiment une narration comme un voix off, comme une voix off. Contrairement à son dessin de lettres dans manuel, qui mélange manuel et numérique, d'ailleurs, on se pose même plus, enfin, on ne sait même plus. Et ça, c'était très intéressant, celui-là, je trouve. C'est très réussi, enfin, ça marche. En fait, tout se mélange, voilà. C'est harmonieux.
Merci beaucoup Jean-François Rey. Donc j'invite tous les auditeurs à regarder les présentations et les mentions qui sont faites aux participants d'un livre de bande dessinée pour repérer comment le lettrage est fait et si il est bien crédité. Merci beaucoup Jean-François Rey pour toutes ces belles paroles, et puis on suivra et on sera au rendez-vous de vos prochaines créations. Merci.
Bonne journée,
à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Oui, à bientôt.
Terminer cette émission, un autre titre avec cette relation à la lettre et au graphisme des lettres, tout à fait particulier et d'une grande précision. Il s'agit du dernier livre, de la dernière histoire de mots CDM, qui s'intitule « Genware ». Les deux tomes sortent le même mois, et voilà de quoi il retourne. Après le grand cataclysme consécutif au retrait des trottinettes en libre-service, la guerre fait rage entre les jeunes et les vieux. Chacun défend son camp, chacun défend son âge. Dans un futur où les geeks ont pris le pouvoir, des seigneurs tentent de survivre comme ils peuvent entre les pièges tendus et les limites dues à leur âge avancé. Tous les coups sont permis, sauf samedi, dimanche et fête, pour affronter l'adversaire. Couper Internet pour désemparer les jeunes, empêcher les vieux de regarder la téloche pour leur faire rater leur rendez-vous quotidien avec Nagui et ainsi affaiblir leur morale. Mais les choses se compliquent lorsque les vieux se rendent compte qu'il manque des recrues ou que certains cas de jeunisme apparaissent dans leur camp, ou bien lorsque certains jeunes sont tentés de manger des légumes et d'écouter Jean Ferrat. Un cessez-le-feu, ou du moins un dialogue, est-il possible ? Mot CDM, c'est un auteur qui a déjà une bibliographie tout à fait imposante. Il a été également scénariste, fait des albums à quatre mains, comme par exemple Cosmic Roger avec Julien, un autre avec Pixel Vengeur. Il a donc même été primé pour les trois petits cochons Reloaded. Alors, ce qui est tout à fait important, et lorsqu'on feuillette le tome 1 ou le tome 2 de Jane Ware, on a immédiatement cette relation au texte qui est marquée par la précision. Les lettrages sont travaillés à différents niveaux et tout de suite par mot CDM. Je précise. Par exemple, la couverture, le lettrage est remarquablement efficace. On part d'une police plutôt classique et, comme le dit Jean-François Rey, eh bien, elle est modifiée, bidouillée pour qu'elle fasse beaucoup plus, qu'il y ait plus d'émotion, plus de sensibilité, et tout en gardant ce côté assez classique de ces polices numérisées historiques. Donc la couverture déjà donne un bel éventail. Le titre de chapitre est traité avec un trait tremblé, qui le titre est intégré à l'image, et là on a avec le tracé des lettres qui sont différentes et qui donnent beaucoup de vie à ces titres. Et puis on a les dialogues, et ça apparaît dès les premières pages, où le texte est calligraphié avec précision. Il y a peut-être une numérisation. En tout cas, les lettres sont souvent très différentes, donc on a l'impression que c'est fait à la main. Et il y a toutes les variations qui est souvent à l'ordre du jour pour les bulles des phylactères, c'est-à-dire les variations, pour les textes des bulles, c'est-à-dire les variations d'intensité lorsque la voix monte, ou là par exemple, on a des expressions qui vont arriver, il y en a une. C'est une petite perle. À un moment, un personnage s'écrie « Mais par la prostate de Tino Rossi !» On est tout à fait dans l'ambiance. Et il y a aussi un récitatif qui, lui, va avoir la même calligraphie de lettres, mais qui sera sur fond jaune dans un rectangle, alors que les lettres sont dans un phylactère qui donne suffisamment d'air, c'est ce qu'on appelle le blanc tournant, et dans les récitatifs, il est un peu moins large, mais comme la forme est rectangulaire, c'est parfaitement lisible. C'est une des qualités de ce livre, c'est d'avoir donc cette précision qui est marquée dès les premières pages et qui va être conduite sur la totalité de l'histoire. D'autres variations du lettrage, donc c'est les onomatopées. Elles sont également dans l'image avec les différentes variations graphiques pour qu'on ait différents sons qui soient exprimés à travers le lettrage des onomatopées. Il y a la citation de chansons comme celle des Beatles ou une autre et le lettrage va être différent pour qu'on soit vraiment dans cette évocation comme une citation d'une chanson. Et puis il y a le rap qui va être aussi mentionné avec là aussi un lettrage spécifique. Donc on a un lettrage différent selon la nature de la chanson. Les enseignes de marque dans ce monde apocalyptique vont être dessinées également. Ce sont des marques qui intègrent l'image, mais qui vont narrativement, avec cette utilisation d'une lettre dessinée et non pas simplement d'une copie d'une enseigne existante, on va vraiment avoir cette sensibilité qui va apparaître à l'image. Il y a des panneaux qui vont être également écrits et ce qui sera écrit sur le panneau va prendre cette sensibilité parce que c'est traité avec le même souci sans utiliser de police qui préexiste déjà sur le plan numérique. Un point d'interrogation va être dessiné et va avoir toute sa force et sera perçu vraiment spécifiquement. Un tag, bien sûr, reprend sa forme manuscrite. Il y a une affiche avec un symbole graphique et on est encore sur cet univers graphique d'une histoire qui peut être donc très étendue. C'est un livre essentiel parce qu'il montre que ce travail de la lettre, ce travail sur le lettrage n'est pas suffisamment reconnu. On va mettre en titre que bien l'auteur, le dessinateur ou la mise en couleur sera faite par un tel, un tel, un tel, mais on ne parlera pas du lettrage. Heureusement, certains commencent à le faire, mais lorsque ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, il faudrait mettre qu'un auteur, c'est aussi donc scénario, dessin, mise en couleur, lettrage. Et ce Genware de Mo Sedem est vraiment un travail sur la lettre d'une très grande précision et qui montre qu'elle est omniprésente dans la bande dessinée aujourd'hui et qu'il faut le reconnaître enfin. Merci Fabien pour cette technique et puis on se retrouve la semaine prochaine et bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.